Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les amis.
Salut Charline.
Bon, moi je vous l'annonce, aujourd'hui je remplace Alex.
Non, je crois pas, non, c'est moi qui remplace Alex.
Ouais, bon, on va dire que c'est vous deux.
Non, après toutes ces années de bons et loyaux services, la place elle me revient, il me semble.
Et moi, des années de chroniques littéraires subtilement reliées à l'actualité.
Bon, alors attends, je te préviens Charline, c'est elle ou moi.
Attendez, okay, calmez-vous, je vous signale qu'accessoirement on prépare une émission de radio et puis qu'on reçoit Michel Leclerc.
Voilà, Michel Leclerc, un grand patron, suppôt du capitalisme.
Moi, je trouve ça très bien Charline, il faut entendre toutes les sensibilités.
Mais Michel Leclerc, le réalisateur. Celui qui a fait le nom des gens, là, il y en a pas un pour rattraper l'autre.
Ah non, je me souviens, si, c'est un film politique, ça.
Oui, enfin, un film de gauche, quoi.
Pas faux. Michel Leclerc est assez engagé à gauche. D'ailleurs, son dernier film s'intitule La lutte des classes.
Ah bah, l'extrême gauche maintenant. Ah, mais Seigneur Dieu.
Non, mais ça, c'est très bien, Charline. On revient à nos valeurs.
Le stalinisme, une valeur?
Non.
Moi, je crois au contraire que la valeur de notre émission, c'est la diversité d'opinions.
Ouais, là, Clara a pas complètement tort, Guillaume.
Ah ouais, et nos idéaux, Charline, t'en fais quoi de nos idéaux, là?
Charline a tout simplement fait le choix du pragmatisme et il faut l'entendre.
Tu te rappelles, Charline, on voulait changer le monde au départ, t'as pas oublié. Maintenant, tout ce que tu trouves à faire, c'est de me grand remplacer par la grande bourgeoisie. Bah bravo.
Non, mais écoute, Guillaume, Clara apporte un point de vue différent à l'émission.
Souviens-toi, Charline, quand on était des petits artisans de la radio.
Ouais, c'est vrai.
Ouais. On faisait tout avec nos petites mains.
Oui, je me rappelle.
Vas-y, si t'es prête, t'as qu'à préparer l'interview de Michel Leclerc avec tes petites mains.
Marot. Renégate.
Vaurien.
Rentière.
Goujat.
Centriste.
Oh, il t'a traité de centriste.
Bonjour la France Inter, bienvenue dans la start-up publique, cet endroit où la blague est prête à mentir pour protéger l'actualité. Le remaniement nous apporte ce matin son lot de nouveaux ministres. Ça tourne tellement vite, on n'a même plus le temps de s'attacher à eux, tandis que les heureux nommés sont à peine préparés.
Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire.
Les chiffres sur l'école sont tombés et c'est pas glorieux. Hausse de 7% des violences contre les profs et surtout 55% des agresseurs sont des parents d'élèves.
Non mais je comprends que vous verriez Kevin, hein. Je veux dire, il en branle pas une. Allez, pisse-lui dessus. Vas-y, pisse-lui dessus. Pisse-lui dessus, voilà, pisse le visage.
Nous passons en moyenne 4 heures par semaine en réunion. La réunion a ses grandes gueules et c'est timide. Alors aux États-Unis naît l'idée de réunion silencieuse. D'abord lire, puis annoter avant de bien cibler son intervention.
Tu as regardé Jean Calin? Tu lui parles, ton texte s'adresse à lui et tu le regardes, c'est absurde.
C'est vrai, c'est surréaliste.
Aujourd'hui, on tente aussi une co-présentation surréaliste avec Clara Dupont-Moineau.
Mais oui, bonjour Charline, je remplace Vizorek aujourd'hui, il est hospitalisé pour un début de syphilis, on pense à lui et on l'embrasse. Alors autour de cette table, une équipe, trois conceptions de l'école. À ma gauche, l'homme qui rêve de... Enfin, à ma gauche,
en face
à moi.
Non, en face,
c'est la radio, les gens s'en foutent.
L'homme qui rêve de transformer l'école maternelle en prépa HEC avec Cac le canard et OPA, le panda, le Montessori de la bourse, c'est Pablo Mira qui va nous parler
Bonjour Clara, salut ma louloute. Guillaume, ils sont petits, affreux, ils cassent tout, on a parfois envie de les tuer et contrairement aux Gremlins, eux, ils existent vraiment. Je vais vous parler des enfants et du burn-out parental. À tout à l'heure.
À ma droite, un homme qui n'a pas été à l'école et cela se voit. Peu de vocabulaire, sauf argent burke, militaire méchant, politique caca. C'est Guillaume Meurice. Où avez-vous transplanté votre tyrannie aujourd'hui, Guillaume Meurice?
Eh ben moi, je vais vous parler d'innovation. Figurez-vous, je suis un fou d'innovation. Innovation dans la bouffe. Je suis allé voir des professionnels.
Bah carrément, là vous allez pas être déçus.
Eh oui, je veux pas vous spoiler, mais on va pas être déçus du tout.
À ma gauche, l'homme qui n'est jamais sorti de l'école, qui veut apprendre toujours, car le monde entier est un théâtre, disait Shakespeare. De quoi allez-vous nous parler, Hippolyte Girardot?
De la classe.
De l'allure.
De la classe.
De l'allure.
De la lutte.
De l'allure.
De l'allure.
Ça va vous?
L'émission est terminée, je crois.
Je peux y aller? Voici celui qui va permettre à notre open space de penser out of the box. Je vous laisse nous annoncer.
J'ai rien compris
vous
déjà ce que vous venez de dire.
Out of the box.
C'est
vous
en dehors,
pensez
de
en dehors du système.
Ah,
hors
d'accord.
Cadre.
Ah, okay.
Vous n'êtes pas disruptif?
Non, je ne suis pas disruptif.
Ah, voilà.
Vous
sortez.
Vous êtes.
Je suis, absolument. Michel Leclerc.
C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui.
France Inter. Charline Vanhoenacker. Alex Vizorek.
par Jupiter.
Michel Leclerc, vous êtes donc retour à la novlangue de la Startup Nation. On l'aura bien noté. Michel Leclerc, vous avez réalisé La lutte des classes, écrit avec Baya Kasmi. Alors, il s'agit de Paul et Sophia, interprété par Édouard Baer et Leïla Bekti. Oui. Paul et Sophia quittent leur appartement parisien pour la petite maison de leur rêve à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Ils croient profondément à la mixité sociale. Leur fils Corentin va pouvoir s'y épanouir. Mais à l'école publique Jean Jaurès de Bagnolet, les profs sont au bout du rouleau. Le bâtiment est décrépit. Il y a une paire de ciseaux qui a été confisquée parce qu'un enfant a coupé l'oreille d'un autre avec. Donc Paul...
Ou la bouche.
Ou la bouche aussi. Paul se fait violence en voulant mettre Corentin dans le privé. Sophia ne s'y résout pas car c'est un renoncement à leur conviction. Michel Leclerc, c'est votre histoire. C'est celle de votre couple, de votre enfant un peu, c'est ce qui vous a
un
inspiré
petit peu,
au
disons
départ.
Que ouais, on s'est inspiré effectivement. Voilà, on a vécu 10 ans à Bagnolet. Effectivement, nos enfants étaient dans cette même école qu'on a filmé. L'école Jean Jaurès. Et puis à un moment donné, mais j'ai pas envie de rentrer spécialement dans le détail, mais à un moment donné, effectivement, on a eu un problème avec notre fils à l'école et on a été pris d'une angoisse vraiment assez grande quoi qui est montée en crème chantilly comme ça pendant quelques mois et on s'est dit et en plus on ne savait pas vraiment ce qui se passait dans l'école puisque par définition quand on est parent on sait pas ce qui se passe parce qu'on voit pas donc on est tributaire de ce que peut dire votre gosse quoi. Des fois il est il a le blouson déchiré tout ça, on a l'impression que c'est la catastrophe et tout ça. Puis le lendemain, il est super content et donc nous on est encore sur le truc de la veille. Enfin voilà, on s'est dit et puis cette espèce de peur qui prend les parents, elle est on l'a partagée avec beaucoup de gens. On a beaucoup parlé avec plein de parents qui vivaient des trucs un peu pareils, quelle que soit d'ailleurs leur classe sociale, parce que la peur, elle est intra-classe.
Et la peur, elle vous fait peut-être renier vos convictions à un moment, parce que vous croyez profondément à la mixité sociale.
Bien sûr. Bien sûr, c'est une question de curseur, c'est-à-dire à quel moment, en fait, le bien-être de son enfant devient plus important que l'idéal de société que vous vous êtes fixé, quoi.
Mais donc c'est en partie votre lutte intérieure. Votre lutte intérieure que vous portez à l'écran comme s'il y avait une espèce de honte dont vous aviez envie de rire parce que c'est une comédie.
C'est d'ailleurs toujours comme ça que j'écris des scénarios, c'est que je par la honte, il y a toujours deux femmes en moi qui pensent le contraire et je me suis dit c'est toujours comme ça qu'à un moment donné je me dis que naît une histoire à partir de névrose quoi. Et quand la névrose personnelle rencontre une névrose en l'occurrence l'école, c'est la névrose de tout le monde, j'ai l'impression.
Pourquoi avoir choisi Édouard Baer et Leïla Bekti? Édouard Baer, il y a une connotation autour de lui, même s'ils se font très bien dans les personnages. Le couple paraît improbable. Comment vous l'avez choisi?
Moi, je suis inscrit sur un site de bourse en ligne des comédiens bankable. Et donc, je regarde tous les jours et je regarde le moment où ils sont les moins chers. Et là, c'était un jour où ils étaient tous les deux les moins chers.
Nous, on a Hippolyte, il est prêt à payer pour
ton
non, non, mais j'aime bien le Tinder des comédiens. C'est super.
Mais non, mais Édouard, ce qui était important, c'est que le personnage, des fois, peut friser la tête de con. C'est-à-dire, des fois, il peut aller vraiment jusqu'à l'antipathie et donc le personnage. Donc, y a une grande règle du casting, c'est que pour un personnage comme ça, on a intérêt à prendre un comédien très empathique. Édouard, il a ça, c'est-à-dire qu'on l'aime quoi qu'il fasse. Il peut même faire des trucs un peu crasseux. On l'aime quand même et il y a vraiment ça. Et puis, je crois que ça l'amusait aussi d'aller un peu vers autre chose. Qu'un personnage qu'il a souvent joué, qui passe beaucoup par le
verbe.
Là, mon personnage, il passe pas tellement par le verbe, il passe plutôt par la sueur.
Et alors, ce personnage, il revendique une vie bohème, en même temps, il vit comme un bourgeois. Sa femme, Leïla Bekti, elle revendique une enfance des cités, mais elle vit comme une bourgeoise. Oui. Et au fond, tous les deux, ils sont mal dans leurs conditions. C'est des personnages empêchés. Vous faites toujours des personnages empêchés.
Oui. Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que on me dit, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit en voyant le film, moi je comprends pas du tout votre film parce que moi, si j'étais dans cette situation, au bout de 5 minutes, j'aurais enlevé mon enfant de l'école. et je me suis dit, tiens, voilà quelqu'un de droite. Je veux dire par là, c'est des personnages qui sont empêtrés dans leurs contradictions, qui ont quand même envie de d'être fidèles à eux-mêmes, qui ont quand même un désir d'intégrité, mais on peut pas toujours l'avoir, quoi. Et on a aussi des désirs, on a aussi, et voilà. Et oui, effectivement, mes personnages sont toujours comme ça. Ils sont toujours un peu le cul entre deux chaises, de vouloir quelque chose et d'être mis dans une case alors qu'ils voudraient être dans une autre. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse.
Tiraillé entre deux pôles. Michel Leclerc, ça s'appelle La lutte des classes. Ça sort mercredi, donc avec Léa Becti, Edouard Baird, Ramzi Bedia, Tom Lévy, Baya Kasmi, Laurent Capelluto et Claudia Tagbo en directrice d'école. Vous êtes avec nous, Michel Leclerc, jusqu'à 18h précisément.
Ça va faire long, hein. Mais courage, Michel.
Mais je
allez, Michel, on lâche rien, Michel. On est avec nous, chez vous aussi, on ne lâche rien. Turner, Working Together, c'est ce qu'on fait bien sûr tous les jours avec plaisir sur France Inter dans Par Jupiter. Nous sommes en compagnie de Michel Leclerc, le réalisateur de La lutte des classes. Et autour de la table, Clara Dupont-Mono.
Alors attendez, parce que j'ai...
Mince. Elle connaît pas les noms.
Mais non, c'est
elle
pas ça.
Pas les noms.
Oui, j'ai Pablo Mira de Subdeco Management. J'ai Hippolyte Girardot du Cours Simon option Léon Blum et Guillaume Meurice du Square d'en bas.
Pôle emploi spectacle.
D'accord.
Je sais par expérience qu'être président de la République, c'est bien difficile. Il est impossible de pouvoir satisfaire tout le monde.
Le journal de presque 17h17.
Mais faut pas raconter des cracks, hein, ça c'est de la pipe.
Et on commence avec les titres.
La nomination comme porte-parole du gouvernement de Sibeth Ndiaye qui déclarait il y a peu qu'elle était, je cite, prête à mentir pour protéger le président.
Ah d'accord, j'ai pigé.
Quoi ?
Poisson d'avril, c'est ça, c'est poisson d'avril,
ah,
1er
non,
avril.
Non, pas du tout, non.
Non, attendez, je vous crois pas, ils sont quand même pas aussi cons.
C'est vrai que des fois on se demande. Alors, on parlera aussi de François Hollande qui juge sévèrement le début de mandat d'Emmanuel Macron.
Arrêtez, Charline, c'est trop gros. Attends, les poissons d'avril, faut que ça soit un minimum crédible en fait.
Mais je vous le promets. Bon, il y aura des brèves.
Ben non, Alex est pas là, donc il y aura pas de brèves.
Ah, bah ça c'est une bonne nouvelle.
Poisson d'avril. Qu'est-ce qu'elle est naïve alors. Oh. Pige rien du tout celle-là.
On commence donc avec la nomination de Sibeth Ndiaye au poste de porte-parole du gouvernement. Pour confirmer la mort de Simone Veil à des journalistes, elle avait envoyé par texto, je cite, « Yes, la meuf est dead ».
Ouais, et là, la meuf est ministre.
Ouais, et la dignité est dead.
Autre nomination chargée du numérique, Cédric Zéro.
Ah non, non, c'est Cédric O.
Ah, c'est O, ah, c'est pas zéro, d'accord. Je croyais qu'ils avaient déjà donné une note à sa future efficacité.
Pas encore, pas encore. Nouvelle entrée au gouvernement aux affaires européennes, Amélie de Montchalin.
Oui, qui quitte donc son poste de sosie officiel de Charline Vanhoenacker.
Merci, ça. Là, c'est vraiment c'est vrai. Ça, celle-là, ça va vous coûter. On c'est poursuit
Cédric,
avec.
Cédric O, c'est vraiment son nom.
Ouais, c'est Cédric, son
vrai nom. C'est tout à fait.
Soyez sur le coup, Michel. Attention. Il n'y a pas de fake news chez nous. Attention.
Allez, on poursuit avec Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, fournisseuse officielle de conneries pour le 17h17, puisqu'elle a déclaré.
On a 4 off et 3 encadrés pour dire Marlène Schiappa a déjeuné avec Cyril Hanouna. Donc moi je vais vous dire, j'ai compris le système, bah je troll le système.
Ah, Hanouna, c'était du troll. Ouais. Voilà, c'est pas la même qui dit que Cache Investigation est populiste.
Si, c'est la même.
Ah, bah voilà, ok. Foutage de gueule toujours. Dans la réédition de son livre, François Hollande égratigne davantage encore le bilan de Macron.
Oui, Hollande qui égratigne Macron, hein, c'est un peu l'herpès qui se moque de la chlamydia.
Période difficile pour le président. Selon le journal Le Parisien, il serait même proche d'un burn-out.
Ouais, ce qu'il faudrait vraiment, c'est une vraie loi qui protège contre le burn-out.
Oui, il y a eu une proposition de loi à l'Assemblée, mais elle a été refusée.
Ah bon, par qui?
Par les députés macronistes.
Ah oui, d'accord.
Voilà, on appelle ça le karma.
Sale temps pour les macronistes avec le changement d'heure.
Attendez, ça, je vois pas le rapport là.
Ben si, samedi à 2h, il était 3h et Christophe Castaner a perdu 1h sur le dance floor de la boîte de nuit de Sanglier Taquin de Melun.
Oui, on pense à lui, Christophe, cœur avec du Malibu Coco. Glamour toujours, Georges Clooney a appelé au boycott du Meurice.
Ah bah ouais, d'accord.
Bah okay. Quoi ?
Mais non, mais il supporte pas que je devienne plus connu que lui, donc voilà, il est comme ça, Georges. À la dernière réunion des hommes irrésistibles aux cheveux grisonnants, on a eu un échange un peu musclé. Ouais. Aujourd'hui, il veut me boycotter. Bon, non,
mais
c'est
du
normal.
Meurice, l'hôtel, c'est... Meurice.
C'est-à-dire, je comprends pas.
Bah, il a pris cette position suite à la décision du sultan de Brunei, propriétaire de l'hôtel Meurice, de faire régner la charia dans son pays.
Ah, d'accord. Voilà.
Attendez, parce que le Meurice, c'est pas déjà l'hôtel qui a accueilli les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale ?
Oui, écoutez, on a le sens de l'accueil chez les Meurices. Bon, on respecte les cultures. On peut enchaîner ?
Oui, ah, média. À l'occasion du 1er avril, le site de Jean-Marc Morandini a fait croire que Cyril Hanouna et Yann Barthès allaient échanger leur place ce soir dans leurs émissions respectives.
Oui, c'est une petite blagounette, hein, une blagounette mineure. C'est normal, c'est Morandini.
International, toujours. En Algérie, Abdelaziz Bouteflika a nommé un nouveau gouvernement.
Oui, alors j'ai la liste. Il y a, je cite... il y a aussi... Alors là, je vois pas parce qu'il y a des traces de bave.
Très bien.
J'arrive pas à...
On a bien compris. Voilà. Est-ce qu'il y aura des brèves ?
Oui, alors brève. Carcassonne, un cambrioleur trahi par ses traces d'excréments après avoir déféqué dans le jardin. Amis cambrioleurs, faites-vous sponsoriser par Smecta.
Merci Guillaume Meurice pour ce journal tout à fait objectif, bien sûr. Hein. Bah, 17h26 sur France Inter,
du journal,
en compagnie du réalisateur Michel Leclerc qui a réalisé La lutte des classes qui sort mercredi en salle. Ce week-end, on a changé de ministre, on est passé au gouvernement d'été. Alors, on a à peine le temps de se moquer d'eux maintenant qu'ils disparaissent déjà, on a à peine le temps de s'habituer. C'est le rythme de la start-up, ça c'est le turnover, on switch à tout va. Hein.
Kylian Mbappé non plus, il n'est pas dans le gouvernement. Il n'y est pas. C'est-à-dire que la semaine dernière, on est sur 4 buts en 13 minutes. Et il faut faire quoi de plus, monsieur Macron, en fait ? Moi, ce qui m'inquiète, c'est s'il n'y a pas Mbappé, ils vont mettre qui à droite ? Moi, c'est ça qui m'inquiète. Tu vois ce que je veux dire ? Ils vont mettre qui à droite ? Je sais pas. Ça m'inquiète. Tu vois ce que je veux dire ?
Romain Fraissinet dans Clic, l'émission de Mouloud Achour. Alors, ce nouveau remaniement, parce qu'on change tellement vite qu'on n'a pas le temps de même de retenir les noms des ministres. Je me disais, Michel Leclerc, est-ce que vous, ça vous laisse de marbre ou vous y voyez des signes d'inquiétude ?
Ben non, mais je me dis surtout qu'ils sont de plus en plus jeunes. Donc je me dis que d'ici la fin du quinquennat, ils vont être mineurs.
C'est Jean-Luc Lahaye qui sera le président.
C'est ça, ouais.
Mais alors, on se demande où sont.
Et moi, j'aime de moins en moins les jeunes. Je ne sais pas pourquoi.
Ah bon, comment ça
Bah ouais, je ne sais pas.
Ben vous devenez moins à gauche là d'un coup. Alors.
Bah oui.
Non,
là.
Au contraire. Au contraire.
Les non, jeunes. Vous devez dire la jeunesse et la force voilà. vive de ouais, ce pays.
Je sais, ouais, voilà. je sais.
Non, on l'a trop oublié ouais, ces derniers ouais, temps. Ouais, vous devez dire ouais. des choses comme ça, ouais. Michel.
Ouais, ouais, est-ce vrai, que tout vrai, ça, ça pose aussi la question
Michel,
restez avec nous. Les auditeurs attendent votre avis. Michel Leclerc, on se demande là où sont les convictions. Les convictions, c'est toujours un fil rouge dans vos films. Est-ce que les convictions, elles peuvent s'accorder avec le pouvoir? Je vous donne un exemple. Sibeth Ndiaye, elle était fervent soutien de Martine Aubry en 2012. Elle avait quoi, la petite trentaine en 2012. Aujourd'hui, elle a 40 ans, elle est ministre dans un gouvernement Macron. Est-ce qu'en si peu de temps, on peut... Voilà, où sont les convictions? Est-ce que ça pose pas ces questions-là?
Ben si, c'est une bonne question. Je pense que, de toute façon, c'est pour ça, moi, personnellement, que je ne fais pas de politique, parce que je trouve que c'est trop difficile de... Comment dire? Il faut toujours avoir un espèce d'ennemi après et ne pas lui donner de enfin voilà se taper
c'est difficile Michel c'est non, difficile mais... c'est difficile bien sûr
vous voyez ce que je veux dire
non,
c'est que
personne ne voit
on est à l'eau depuis tout à l'heure imaginez avec des substances spiritueuses non, mais...
Je veux dire, oui, les convictions, c'est difficile. Elles sont beaucoup plus faciles d'avoir des convictions dans un autre... quand on est artiste, par exemple, mm-hmm. je trouve, que quand je pense quand on est homme politique. Parce que on est confronté quand même au...
Ah, ça, je suis pas sûr, parce que les deux doivent plaire et séduire un public.
Oui, mais je trouve que c'est plus facile de séduire avec des convictions quand on est artiste, moi, je trouve. Ça mange pas de pain.
Ouais. Vous devriez essayer, Pablo, d'avoir des convictions une fois dans votre vie.
Je vais essayer
pour
là pendant 4 minutes.
Vous qui êtes un homme de gauche, Michel Leclerc, quel est votre regard sur l'évolution de la gauche? Si vous deviez faire le bulletin de notes, puisqu'on parle de l'école, de la gauche, ce serait peu mieux faire? Ce serait exclusion définitive?
Non, mais il me semble que, par exemple, là, j'ai l'impression qu'il y a un horizon qui peut, naître dans la gauche, c'est de dire, par exemple... Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être social et écolo, par exemple? Ça me paraît être un bon horizon pour la gauche. Donc, à partir de là, essayer de construire quelque chose à partir de ce but.
Oh, vous allez voter Raphaël Glucksmann, vous.
Non, j'en sais rien.
Seul. Parce que, heureusement, la gauche l'a compris à 2 mois des présidentielles, des européennes, pardon. Lapsus. Donc 2 mois juste avant. Quoi.
Ensuite, j'ai l'impression que moi, depuis que je suis adulte, j'ai l'impression d'être toujours dans la déception de la gauche. Quoi. Même déjà, sous Mitterrand, était dans la déception de la gauche. Et c'est comme si être de gauche était être toujours déçu. Mais peut-être c'est ça qui est bien d'être
peut-être
déçu.
Peut-être parce que les électeurs de gauche sont très idéalistes.
Non, mais je crois
même.
Mais
oui,
je crois
que même les électeurs de droite sont
déçus. Oui, c'est ça. Bien sûr.
Tu mets trop d'espoir dans des gens qui ne sont pas fiables. Enfin, je suis bon là dans mon intervention.
Très bien.
Eh bien, justement, il est 17h30. L'heure de passer la parole à celui qui intègre la tournée Star 80. Kilomètre-heure, ouais. Une troupe qui chante sa haine des radars sur fond des mille images. Ouais. C'est vous, Pablo Mira. Ouais, alors, mon petit ange trapu, vous nous parlez aujourd'hui d'une autre haine, celle que vous nourrissez chaque jour pour vos enfants.
Oui, pour mes enfants. Oui, Charline, ma louloute à la liqueur de chicon. Je le dis et j'assume cette opinion taboue dans notre société aujourd'hui. J'aime mes enfants. Mais je regrette de les avoir eus. Je les aime, mais Inch'Allah, ils meurent. Inch'Allah, ils meurent. De manière naturelle, évidemment, Charline. Hein, l'idéal serait qu'ils meurent de vieillesse avant l'adolescence. Car, vous savez, on se trompe souvent sur les enfants. Pour Daniel Pénac, les enfants sont, je cite, des énigmes lumineuses. Pour Christian Quesada, ce sont 4 téraoctets de vidéos sur un disque dur planqué sous son plancher. Pour moi, ce sont avant tout des soucis. Les enfants, des soucis d'abord liés à leur caractère. Ce sont des êtres profondément irrationnels, des boules de pulsions, hein, sans queue ni tête. Et donc moi, contrairement à une majorité de Français, ça me choque pas qu'une femme refuse de mettre au monde un supporter de foot. Je vais même vous dire, pour moi humainement, les enfants sont des monstres. Hein, voilà, persuadés que la terre entière est à eux. C'est simple, la seule différence entre des enfants et les nazis, c'est que les nazis, eux, au moins, prenaient le temps de repasser leurs vêtements. Car n'ayant pas peur de le dire, la seule chose que les enfants savent faire, c'est pourrir la vie de leurs parents. Je le vois bien depuis que je suis papa, pas une journée sans tension, tension liée au cri, tension celle-là elle va partir, il y a du jeu aujourd'hui. Wow. Et c'est ça la réalité du burn-out parental, les amis, quand on se sent démuni face à son rôle de parent et qu'on finit par perdre ses nerfs, alors on fait des choses qu'on regrette, hein, on leur crie dessus, on met une fessée, on leur met une chronique d'Hippolyte Girardot. C'est terrible quand on perd le contrôle à ce point. Mais c'est c'est ça, devenir parent, c'est très dur, surtout pour les femmes qui se retrouvent comme ça du jour au lendemain réduites à leur statut de mère, alors que jusque-là, elles avaient eu la chance de n'être réduites qu'au statut d'objet sexuel. Et je vous parle même pas du traumatisme de l'accouchement sur leur corps, hein, aux femmes, sans vous donner trop de détails. Moi, pour m'amour, niveau entrejambe, on est passé de la flûte à bec au didgeridoo. Hein, il n'y a plus une note, aiguë qui sort. Donc, de facto, c'est un grand oui. Donc, de facto, tout ça, bah, ça a des conséquences sur le couple. Hein, on va pas se cacher, Charline.
Sans même parler
du fait qu'avec l'attention que ça requiert un gosse, eh bien, on peut très vite négliger son conjoint ou sa conjointe. Et c'est pas le rôle d'un enfant de ruiner la vie de couple. Ça, c'est le rôle du catalogue Netflix. Tenez, un sondage mené sur le site Channel Mum révèle que, écoutez bien, c'est terrible, qu'après avoir eu un enfant, la durée moyenne des rapports sexuels des parents, c'est 2 minutes et 15 secondes. 2 minutes et 15 secondes, une durée ridicule pour certains, un beau challenge pour Guillaume au passage. Bref, vous l'avez compris, tous ces aspects négatifs mis bout à bout, ça donne ce qu'on appelle le burn-out parental, c'est le stress permanent. On vit en étant angoissé à chaque seconde de la journée, du réveil au coucher. C'est simple, avoir un enfant, c'est décider qu'on passera le reste de sa vie dans la peau d'un Parisien. Tout ça, pourquoi au final? Eh bien parce qu'on se met trop de pression hein, pour coller à l'idéal du fameux « bon parent », entre guillemets. Réfléchissez un petit peu. Le parent idéal, être un père idéal, parfait, une mère parfaite, ça n'existe pas. Alors, à tous les parents qui n'en peuvent plus, faites-moi confiance. Pour être heureux, assumez vos limites, assumez vos mauvais côtés. Moi, j'ai accepté qu'il y ait des jours où je suis pas un bon parent, où je suis un mauvais parent, parce que je sais qu'heureusement, il y a aussi des jours où je suis en déplacement. Pour conclure, vous l'aurez compris, je crois que j'aurais jamais dû faire deux gamins, deux enfants. Mais bon, à l'époque, je me suis dit que les enfants, c'était peut-être comme les crêpes, hein, que c'est juste la première qui est toujours raté. Comme j'ai eu tort. Allez, salut.
Pablo Mira, dites-moi mon loulou, rappelez-moi quand je dois appeler la babysitter parce que vous êtes au théâtre.
On serait sur du vendredi et samedi 21h au théâtre de l'Œuvre à partir de ce vendredi.
Vous dites des choses contre de l'argent.
Contre de l'argent, j'ai dit des choses sur Guillaume aussi, les gens en raffolent.
Vous écoutez France Inter, Michel Leclerc est avec nous, le réalisateur de La Lutte des Classes, jusqu'à 18h.
Ce matin dans la glace, je ne me reconnais pas. Quels sont ces 5 pouces? Il est un très belle femme, par cette petite secousse. Comme une princesse qui tousse, je change de carapace. Il est un très belle femme, anima animus. En moi se cherche le plus, je suis bien plus que as. Le yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin, le yin est dans le yang. Le yin est dans le yang, le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin, le yin est dans le yang. Oh, oh mes femmes, oh milieu, sois toi-même. Être unique est précieux, sois toi-même. Oh mes femmes, elle est beau, il est belle. Ce matin dans la glace, je ne me reconnais pas. Quels sont ces poils qui poussent? Elle est un très bel homme par ses petites secousses. Un garagiste qui tousse, je change de carapace. Elle est un très bel homme, anima animus. En moi se cherche de plus, je suis bien plus que us. La yin est dans le yang est dans le yin. La yang est dans le yin est dans le yang. Le yin est dans le
Arthur Ashe sur France Inter. Michel Leclerc, le réalisateur de La lutte des classes, est avec nous. Film écrit avec Baya Kasmi qui sort en salle mercredi avec Édouard Baird, Leïla Bekti ou Ramzi Bedia, entre autres. Il est 17h37 à Bagnolet. On salue les enseignants du lycée Jean-Jo à Bagnolet, qui est le siège du tournage du film. À côté de vous, Michel Leclerc, il y a Guillaume Meurice.
Oui, c'est vrai. C'est
un
vrai,
mauvais
c'est,
élève.
C'est une vérité. Eh bien, écoutez, on connaissait la fintech, on connaissait la French tech. Eh bien, voici la food tech. Prends bien ça dans la gueule, François-Régis Gaudry. Dans moins de 5 minutes, tu seras un gros ringard. C'est l'innovation dans le domaine de la bouffe. Alors, il y a du diabète 2.0, du data cholestérol, plein de belles choses très start-up nation. Pour le dépistage du cancer de la prostate, on avait déjà le digital, je vous le rappelle. Pensez-y, Hippolyte. Mais pour le reste, vous le savez, l'être humain est un génie puisque c'est la seule espèce capable de nommer une mythomane porte-parole d'un gouvernement, la seule à mettre de l'ananas sur une pizza. Et moi, je suis allé au grand rendez-vous de la restauration. Je vous ai mijoté une petite sélection gourmand croquant, vous allez voir. Et on commence avec les cornichons. Parce que vous me disiez, Charline, ça fait longtemps qu'il se passe pas grand-chose dans le milieu du cornichon. Pourtant, vous gérez cette équipe. Mais en ce qui concerne les vrais cornichons, ça innove. Attention, petite mise à jour avec un pro.
Alors, nous innovons sur deux manières. La première, d'un point de vue filière. Et d'une autre manière également, le cornichon pour la restauration sur les poches de cornichons. Et un nouveau packaging de cornichons en 400 grammes ou 2 kilos.
Ça veut dire que ça bouge pas mal sur le marché du cornichon, quoi.
C'est l'innovation. Back to basic, on peut référer ça.
Back to basic, dans le milieu du cornichon. Hein, c'est vrai qu'on l'entendait pas mal dans le milieu du cornichon. Bah, c'était mieux avant. Bah, là, ils vont être contents, les Finkielkraut du cucurbitacé. On revient, je dirais, aux fondamentaux. Alors, là où ça disrupte
mais
pas mal.
Un jour, dans le monde du cornichon, ils ont inventé ce truc-là où quand on soulève, les cornichons sortent.
Oui, oui. Le petit panier avec des petits crocs.
Il y a eu de l'innovation dans le cornichon.
Et ça, c'était un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour le cornichon. Oui. Ouais, exactement. Je vois que Michel, vous êtes plus à l'aise sur tout ce qui est cornichon que pour la société en général. D'accord. c'est très bien, c'est très bien. Alors, est-ce que vous êtes balèze en frites? On va partir sur
les frites. Non, c'est plus vous, les frites.
Alors, je suis désolé, Charline, mais ça disrupte du côté des frites. Le milieu de la frite est en émoi avec une innovation. Que dis-je, une révolution?
C'est un distributeur automatique de frites qui a un mode de paiement carte bleue, pièces et billets avec également un distributeur de ketchup et de mayonnaise.
Voilà, on n'arrête pas le progrès.
Voilà, c'est un succès qui nous attend. Mais c'est une première mondiale, voire interstellaire, parce que même sur Mars, il n'y en a pas.
Eh oui, il n'y a pas encore de distributeur automatique de frites sur Mars. Il y en aura bientôt partout, hein, une machine à frites. Attention, pas une machine à fric. Ah, attention, machine à fric, ça existe déjà. Ça s'appelle Pablo Mira sur TMC. Alors, accrochez-vous, on continue. Je vous présente la machine à faire de la pizza.
Il y a une translation qui se fait automatiquement par un robot qui va amener la boîte en carton en face du four, anti-chaude. La boîte est ouverte par un système de ventouse et un bras sort du four pour prendre la pizza pour la cuire en 3 minutes, 3 minutes et demie.
Et hop, la pizza en 3 minutes et demie parce qu'on n'a pas le temps. Hein. On vit dans un monde qui va très vite et la pizza doit s'adapter au risque de disparaître. Hein. Vous connaissez, c'est le darwinisme version calzone. par exemple, si on prend l'aligo, hein, spécialité de l'Auvergne, l'aligo, eh ben, ça prend du temps à faire et du temps, ben, on n'en a plus. Eh ben, c'est pas grave parce qu'en France, on a des génies, des inventeurs d'une machine.
Pour remettre en œuvre l'aligo.
Donc, une machine à aligo.
Voilà, une machine qui remet en œuvre l'aligo en 60 secondes, moins de 60 secondes. C'est une prouesse.
C'est révolutionnaire.
Oui. Exactement, ça s'appelle Aligo Express.
Et hop là, Aligo Express, évidemment, après la révolution des œillets, la révolution de l'Aligo. On ne l'avait pas vu venir, mais c'est la force aussi des grandes révolutions. Hein. Elles arrivent quand la société est prête à un basculement. Et là, ça sera donc avec des patates et de la crème fraîche. Mais la société va vite, et tout ça, je trouve, prend encore trop de temps. Alors d'autres foufous du progrès ont inventé Feed. Explication.
Quand vous n'avez pas le temps de consommer un repas traditionnel, et bah, consommez un produit Feed et vous allez avoir un tiers des apports nutritionnels de votre journée.
D'accord, donc c'est quoi en fait? C'est de la poudre.
Vous avez la bouteille avec la poudre, vous rajoutez de l'eau à température ambiante, vous mélangez et vous allez avoir un produit fini, un repas parfaitement équilibré et qui vous assure un vrai sentiment de satiété.
Et voilà le travail de la poudre, de la flotte et fini les pauses déjeuner. C'est ça l'avenir, ça c'est la productivité. Fini la cantine de Radio France où Clara d'ailleurs a été à midi. Bravo, bravo
oui,
Clara.
Bon,
ouais, bel effort. Elle a pris, je cite, un menu staphylocoque doré. Bravo, c'est chouette. En attendant, voilà, prenez du feed vraiment en intraveineuse. Une idée qui déplairait pas à un organisateur du salon.
Chaque année,
Il n'y a que des nouveautés, je dirais. Là, c'est the place to be, hein. Sincèrement, il n'y a pas mieux.
Qu'est-ce qu'on trouve de nouveau?
Ce sont surtout, on va dire, des systèmes qui sont adaptés au concept. Donc, on a beaucoup, beaucoup de choses, évidemment, qui sont liées au monde du surgelé, je dirais, en général.
Vous avez des concepts liés au système sur le surgelé?
Oui, complètement.
Oui, oui, ça, on ne savait pas non plus, mais on ne va pas se mentir, ils sont essentiellement là pour nous faire bouffer du concept. On va vous gaver de concepts. C'est le nouveau monde, c'est le concept. Et comme le monde moderne, c'est la compétition.
Eh ben, nous récompensons, justement, les industriels du secteur depuis maintenant 10 ans qui innovent, justement. Ça, c'est la récompense de l'innovation.
Et donc, il y aura un gagnant?
Il y en aura 35, exactement.
Ah oui, 35 gagnants.
35 lauréats Snacking d'Or, chacun dans leur catégorie, avec des vraies, vraies, vraies innovations.
Et voilà, on prie très fort pour tous les participants au grand concours Snacking d'Or, en vous souhaitant bon appétit, hein, vu la nouvelle porte-parole du gouvernement. On n'a pas fini d'avaler des conneries.
Merci Guillaume Meurice, ou pas merci d'ailleurs. 17h42 sur France Inter. Oh là là, quand je pense au temps que vous passez dans ces trucs-là.
J'adore, je suis fan de ça.
C'est fou,
fan d'innovation.
Oh là, dites donc.
Parce qu'il y a des gens qui passent du temps à innover.
Mais c'est vrai,
en
oui,
disant,
oui,
il ne s'est rien passé dans le domaine du cornichon. Bah, faisons une réunion et faisons un peu avancer. je
merci,
suis passionné de ça.
Guillaume. Michel Leclerc en notre compagnie. Clara Dupont-Monod, vous êtes la rédactrice en chef du sujet 2.
Oui, aïe, puisque les violences contre les profs augmentent à l'école. En tout cas, c'est ce que révèle le JDD d'hier, qui s'appuie sur un baromètre annuel. 22% des agresseurs sont des élèves, 55% des parents d'élèves, parce que le prof a mis une sanction qui leur a pas plu, parce que le prof a fait un signalement pour maltraitance, et double peine, les profs bien souvent ne sont pas soutenus par leur hiérarchie.
Je me mêle sans doute de ce qui ne me regarde pas, mais je me demande si quelqu'un qui arrive d'un lycée comme Fénelon est bien préparé à affronter la quatrième techno, monsieur Gauthier.
Bon, écoutez, si un autre professeur d'histoire géo veut échanger avec monsieur Monnier et prendre la quatrième techno, je n'y vois aucun inconvénient. Madame Bottreau?
Non.
Monsieur Rivet?
Quoi?
Alors je suis désolé pour lui, mais la quatrième techno est adjugée à monsieur Monnier. Je vous souhaite bien du plaisir, monsieur Monnier.
Vous savez, il n'y a pas que la quatrième techno, il y a un petit sixième qui m'a traité de sale pute, alors vous voyez.
Comment, monsieur, ouais.
Le plus beau métier du monde, le film de Gérard Lozier. Alors Michel Leclerc, vous êtes fils de prof.
J'ai cru que vous alliez dire fils de pute.
Non, je me permettrai
pas. C'était la première question. Ouais.
Vous êtes fils de prof. Vous avez déjà été contaminé par l'état d'esprit bien bas de plafond. Est-ce que vous avez le souvenir de parents heureux dans le métier ou qui étaient déjà soucieux?
Non, mais moi, mes parents, soucieux, c'est leur deuxième prénom. Hein.
D'accord.
Donc, mais je sais pas. Il paraît qu'on n'entendait pas une mouche voler dans la classe de ma mère. Mais moi, j'y étais pas. Mais ouais, voilà.
Donc elle rentrait pas avec des anecdotes ou des ras-le-bol ou des...
Non, pas tellement, parce qu'elle était prof de maths, et je sais pas, les profs de maths, ouais.
Ça calme.
Mais elle avait peut-être, elle appliquait une forme d'autorité, ça veut dire.
Oui, c'est probablement, je sais pas, non mais je crois que les élèves l'aimaient bien. Mais c'est prof de maths, il n'y a pas de rapport en dehors de l'école, j'ai l'impression. Enfin, il y a pas, c'est pas très.
On parlait sexy. Donc, c'est un article notamment paru dans le JDD hier sur ces violences à l'école. Il y a aussi le fait, si on prend, bon, par exemple, le lycée à Bagnolet que vous avez filmé, Jean Jaurès, vous en faites, bon, il y a quand même une forme de caricature parce qu'il y a un pan de mur qui s'effondre, etc. Mais c'est une réalité dans plein d'établissements publics. C'est le bâtiment qui est pu être très délabré. C'est des profs au bout du rouleau, etc. Est-ce que la violence, elle vient pas aussi de là de...
Ben déjà, il y a un truc qui me semble complètement absurde, c'est que à ville riche, école riche, à ville pauvre, école pauvre. C'est-à-dire que les murs des écoles, le budget dépend des municipalités. Mmh. Donc, dans une municipalité pauvre comme Bagnolet, par exemple, qui est totalement endettée, une des plus endettées de France, eh ben il y a pas les moyens pour remettre un coup de peinture, ou même des fois, il y a pas les moyens pour payer la note de chauffage.
Et ça s'en ressent forcément.
Évidemment, alors que ça devrait être l'inverse. Donc oui, il me semble que les communes riches, c'est-à-dire qu'ont beaucoup d'impôts locaux, finance les communes pauvres. Enfin, moi, ça me paraît.
Faudrait mettre Robin des Bois au ministère de l'Éducation, quoi.
Bah,
votre film, c'est aussi le cœur du film, c'est la mixité sociale dans les écoles, etc. Si on partage pas la salle de classe déjà quand on est gamin, comment est-ce qu'on pourrait partager la société ensuite?
Ah ben, c'est sûr. Moi, je pense que ça, c'est vraiment ce qui est catastrophique, c'est que ce phénomène qui fait d'évitement scolaire, qui fait que les classes sociales, les enfants de différentes classes sociales ne se mélangent plus dans l'école publique aujourd'hui, ne peut donner que des résultats catastrophiques dans 20 ans.
Parce qu'après, où est-ce qu'on pourrait se rencontrer si on se mélange pas là.
Or, on a tous quand même, il me semble, le souvenir d'une rencontre de quelqu'un qui n'est pas de notre milieu, qui enfin, il me semble que c'est vraiment important. C'est ça qui fait que l'école, on sort de la famille, on sort des idées de ses parents, on peut être choqué par quelqu'un qui pense pas comme soi. Et c'est ça qui est intéressant. Bien sûr, c'est apprendre.
Parce que faisait aussi le service militaire. Mais bon. Ouais. Alors à un moment dans le film, Michel Leclerc, j'ai réussi à caler. Et une bonne guerre, ouais, ce sera réglé. Personne n'a répondu.
Mais surtout c'était ça militaire que pour les garçons.
Que pour les garçons. Plus. Non, ouais. Mais à un moment dans le film, Michel Leclerc.
Et puis il y avait des procédures d'évitement.
Non, à un moment dans le film, il y a les parents qui inventent une fausse adresse pour inscrire leur enfant dans une autre école publique. Donc ils sont reçus par la directrice d'école et elle les grille avec leur fausse adresse et elle leur lâche avec un mépris crucifiant. Vous, les gens de gauche, vous êtes mille fois plus faux cul que les gens de droite.
Oui.
Voilà.
Mais
on sent que ça vous fait
non,
mais
question.
C'est formidable que vous ayez pu
que c'est ça. Moi, je trouve
que
c'est bien d'avoir d'être faux cul. Enfin, je veux dire, c'est bien d'avoir des scrupules. C'est bien. Effectivement, si on se pose aucune question et se dit « Ah, mon enfant a un problème, on le met à l'école privée et puis voilà, c'est résolu, etc. » Là, en tout cas, mes personnages, j'espère qu'on est avec eux parce qu'ils se prennent la tête. Mmh. Parce que tricher pour changer son enfant d'école, pour eux, c'est gros. C'est un gros mensonge. Ils sont pas cyniques. Ils y vont comme des collégiens qui ont fait une bêtise et qui se disent je vais me faire choper. Donc je pense que moi je préférerais toujours des gens qui se prennent la tête pour tricher que des gens à qui ça ne pose aucun problème.
Et ceux qui sont dans ce dilemme ou ceux qui sont pour l'école privée, etc., se reconnaîtront de toute façon dans le personnage d'Edouard Baird aussi. Donc tout le monde peut se reconnaître dedans. Il n'y a pas de crispation, je veux dire. Ouais. Car c'est une comédie, on est là pour rigoler aussi.
Ouais. Bon,
et on rigole. La lutte des classes, mercredi en salle. Hippolyte Girardot, je vous ai presque pas entendu depuis le début, là j'ai envie de vous entendre.
Mais non, j'écoute. C'est temps troublé. L'actualité, c'est évidemment la lutte des classes. La lutte des classes sur les fronts, entre tous. Progressistes, conservateurs, privilégiés, démunis, hommes, femmes, pollueurs, pollués, harceleurs, harcelés. La lutte des classes est partout et la justice nulle part. C'est dire que votre film, par son titre, s'inscrit dans une problématique globale. Mais quand, au petit matin du vendredi 29 avril, j'ai entendu l'annonce de la disparition d'Agnès Varda, je me suis rendu compte que... Ouais, si on parle de classe, alors oui, comme me l'avait soufflé un camarade, qui avait plus de classe qu'Agnès Varda? Quand on a dit la disparition d'Agnès Varda, j'ai cru que c'était son nouveau film. On dit ce mot disparu pour dire le décès. C'est intéressant, le nom des choses. Ouais, je suis d'accord, presque autant que le nom des gens, qui était le titre judicieux d'un de vos films, où vous avez tenté de lancer un comédien qui n'était pas fait pour ça, Lionel Jospin. Pas vraiment fait non plus pour être président d'ailleurs. Oui, dire disparition pour mort, c'est une bonne litote, c'est ça? Une litote, n'est-ce pas Clara? Pour dire que c'est assez mystérieux, la mort. On sait ce que c'est. En gros, c'est quand il n'y a plus de vie. Mais c'est mystérieux parce qu'au lieu de prendre ça pour acquis, tu vis, tu ne vis plus. On demande si par hasard, juste pour voir s'il n'y aurait pas un petit truc en plus après, si en payant un petit supplément, on n'aurait pas droit à un petit rabbin, un café gourmand offert par la maison, hein? Alors quand on dit de quelqu'un qu'il disparaît, c'est comme un tour de magie. Hop, le lapin disparaît, hop, il réapparaît. Et la grande idée, c'est ça. C'est encore plus fort que la vie après la mort, c'est revenir dans la vie, dans la nôtre. Et miraculeusement, comme on l'a dit il y a fort longtemps pour une autre réapparition, Agnès m'est déjà réapparue. Sont réapparus des plans en bus de ce film qui disait toute la liberté d'une femme dans les années 60, ce portrait en temps réel de Cléo entre 5 et 7, qui était à l'époque toutes les femmes de cette époque, qui manifestaient avant l'heure la révolution féministe, qui allait exploser des années après. Mais réapparu d'un seul coup Sandrine Bonner, qui faisait du stop dans Saint-Ouen-Illois et à qui Agnès avait enlevé tout confort pendant le tournage et qui devait être sûrement tout aussi sale que son personnage dans le film et qui nous a montré l'actrice incroyable qu'elle allait être et est encore. Et même moi, je me suis réapparu. Tiens, quand j'étais très jeune et qu'elle m'avait invité à parler d'un projet de film, j'étais allé rue Daguerre, et désormais une des rues les plus connues de Paris, et presque du monde, dans son jardin. Enfin, une sorte de jardin. Il faisait très beau, les murs étaient roses, il y avait des chats, des plantes dans des pots, des clochettes accrochées aux arbres et des objets mystérieux. J'avais l'impression d'être au Mexique chez Frida Kahlo, ou dans une de ces arrière-cours des immeubles du sud de la France où on boit un verre à l'ombre. Fanny Cottençon était avec moi, elle était là. Et je me souviens plus du tout du film, qui finalement ne s'est pas fait, mais je me rappelle du regard d'Agnès. Elle parlait beaucoup, très vite, encore plus vite que moi, mais je voyais bien qu'elle ne faisait que nous regarder de son œil pointu. « Qu'est-ce que je peux faire avec ce couple-là » se disait-elle. Elle était en train d'inventer notre relation dans son film. Fanny et moi, on se regardait comme un jeune couple sicilien qu'on allait marier. C'était intimidant. Je sentais la force de ce petit bout de femme. Un truc très dur, tenace, très sûr d'elle. J'ai toujours aimé ce moment parce que je me suis dit, une artiste, voilà, c'est ça. Une artiste, ça bouge pas de sa position. On lui enlève le parasol qui la protégeait de la chaleur, elle met un journal sur sa tête. On lui enlève le petit bateau qui lui apporte à bouffer, elle se fait un fil à pêche en découpant sa chemise et tord une épingle pour en faire un hameçon. On lui dit, tu vas rester toute seule. Et elle se met à parler avec les vagues, avec la plage, avec le ciel. Coriace. Et c'est quand même une artiste qui a fait de la patate une star internationale. C'est assez classieux, pour le coup. Et assez malin, parce qu'à chaque fois que vous voyez une patate, le film d'Agnès vous réapparaît. Et si cette patate est en forme de cœur, alors là, c'est carrément une petite tape sur l'épaule. Alors, comment vous dire? Ce genre de miracle, pour moi, c'est vraiment la classe. Salut Agnès, à ta prochaine réapparition.
C'est triste que tout le monde meure, mais on veut pas que la beauté meure, voilà.
Hippolyte Girardot, merci beaucoup pour cet hommage à Agnès Varda. Sur France Inter, 17h52, nous sommes en compagnie du réalisateur Michel Leclerc et nous avons choisi un troisième sujet de fond avec vous. Car nous passons en moyenne, c'est le sujet où on touche le fond généralement, c'est plutôt ça. Nous passons en moyenne 4 heures par semaine en réunion. Soit 27 jours dans l'année. Et nous défions quiconque de connaître la recette d'une réunion rapide et efficace. Chez Amazon, Jeff Bezos tente des réunions en silence, c'est-à-dire des échanges où d'abord on lit des notes, on les commente, et puis seulement, on s'exprime.
Avant de commencer, je voudrais dédier ce film à Tatiana, que j'ai rencontrée en discothèque il y a 2 ans à Saint-Barth. Voilà. Merci pour elle.
S'il vous plaît, un peu de concentration.
Toujours commencer par détendre l'atmosphère avec une vanne à la con. La drogue vous aide à acquérir cette nonchalance, ce détachement nécessaire pour survivre à ce type de réunion. On a tous le désir de changer le monde et j'ai bien conscience que participer à ces réunions, c'est collaborer, qu'être assis à cette table, c'est s'associer au décervelage général.
Jean Dujardin dans 99 francs, le film de Yann Kounen adapté du roman de Frédéric Becbédé. C'est un article que nous avons trouvé dans M Le Monde qui nous explique le temps qu'on passe en réunion et que les Américains ont trouvé une idée géniale, c'est-à-dire de faire des réunions en silence, où c'est-à-dire chaque intervention est sous-pesée.
Ça s'appelle la sieste.
Après, en France, oui. alors, il y a dans les réunions celui qui monopolise la parole, qui fait le show généralement. Il y a celui qui lance la petite blague toujours dans les réunions. Il y a celui qui râle. Et puis il y a celui qu'on n'entend jamais. Est-ce que les réunions, il y a un côté théâtral, comme je viens de le décrire, cinématographique, est-ce que ça peut être une source d'inspiration, ça et l'entreprise pour vous?
En tout cas, quand on fait un film, quand on le fabrique, il y a des réunions. Il y a des réunions très importantes, comme celle par exemple de la première lecture du scénario avec les comédiens. Mm-hmm. C'est un truc où on se connaît pas bien en général, on s'observe, chacun est sensible à la moindre remarque des uns et des autres. Moi, j'ai des vrais moments, par exemple.
Et une réunion avec Edouard Baird, ça tient.
C'est déjà, il faut qu'il vienne à la réunion. parce que souvent il est à la réunion, mais
l'autre.
Et ensuite, oui, c'est pas évident.
Puis vous travaillez à deux, vous écrivez avec Baya Kasmi, qui est votre épouse.
Oui. On n'est pas mariés.
Comment? Non, vous êtes. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai. C'est une institution bourgeoise. Et là, vous faites des réunions à deux.
Oui, alors là, oui, mais c'est des réunions qui peuvent être à 3h du matin. Ça, c'est autre chose.
Ah oui, mais ça, je vous demandais pas de.
Non, mais de travail, je veux dire. D'accord. C'est ça le truc, c'est quand on travaille avec quelqu'un.
Oui, c'est vrai. Avec à la maison, ça peut être disponible.
À des moments très, très curieux.
Ouais, je sais pas si c'est validé par la gauche et la CGT. Michel Leclerc, on a un rôle à vous proposer.
Oui.
Pour que vous deveniez un peu comédien avec nous, on a envie de jouer avec vous.
Chaque jour, on fait ce petit test à notre invité, on lui propose un rôle qu'il découvre. Figurez-vous que Sophie Montel, ex-Rassemblement National, a sorti un livre qui raconte les coulisses du mouvement. Et comme vous avez fait des films sur la gauche, on s'est demandé à quoi ressembleraient les coulisses vues par Michel Leclerc. Alors, vous ferez la voix off du film. Charline, Marine Le Pen, évidemment. Clara, Brigitte Bardot, évidemment. Et je jouerai, quant à moi, Florian Philippot. On est parti.
Évidemment.
Alors, après le nom des gens a été les gauchos, Michel Leclerc se lance dans la comédie d'extrême droite.
Dis-moi Marine, il n'est pas un peu tôt pour le Chardonnay là,
hein? Oh, ça va, j'ai pris 3 points dans les sondages, ça se fait.
Madame Le Pen.
Mais qu'est-ce qu'elle me veut la vieille?
Votre élu local a organisé un salon de la chasse à cour.
Dites, vous avez pas marre d'épiler les poils de cul des maires Front National, non?
Enfin Marine, c'est quand même Brigitte Bardot, là, on a besoin de son soutien.
M'en fiche, comme dans ma première cuite de Brigitte Bardot.
D'après le livre de Sophie Montel, une comédie grinçante sur les coulisses du parti d'extrême droite.
Bah, dis-moi Marine, qu'est-ce qu'on fait pour mon iPad gratuit, mes places au stade et mon écharpe tricolore?
Oh, bah faut voir ça avec Sophie.
Ah oui, mais elle me répond pas au téléphone, je peux imiter sa signature.
Bah oui, vas-y ma poule, bon allez, ça se fête, apéro.
Dans le nouveau film de Michel Leclerc, découvrez l'arrière-cuisine du Rassemblement National, vous saurez tout sur l'affaire des assistants parlementaires européens.
Bon, chacun d'entre vous dispose d'une enveloppe budgétaire pour embaucher ses assistants. Vous prenez un seul assistant et le reste de la thune va dans les caisses du parti.
Attends, c'est pas un peu illégal ça?
Bon, elle est bien bonne celle-là, pourquoi ce serait illégal?
Bah, ça veut dire qu'ils sont payés par l'Europe mais qu'ils travaillent pour le parti?
Bah, de toute façon, l'Europe paye nos assistants pour nous aider à détruire l'Europe.
Ah, ouais, 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 vu comme ça, oui, c'est sûr.
Bon, bah, on a bien bossé. Apéro?
Revivez les coulisses du débat de l'entre-deux-tours.
Ouais, tu vas voir Florian, je vais le plier le Macron.
Non, alors méfie-toi quand même un peu, Marine.
T'inquiète, j'ai une arme secrète.
Ah bon?
Ouais, j'ai découvert une vidéo qui explique que Macron est un psychopathe narcissique dont le développement a été stoppé prématurément en pleine adolescence.
Ça vient d'où là, la vidéo?
Oh, un petit site d'info italien, vivamussolini.info. Bref, on sait exactement comment appuyer sur ses failles. Je vais tout lui balancer d'entrée pour qu'il pète les plombs.
Bon, écoute, si tu le dis.
Si tu permets, je vais peaufiner un peu mes punchlines.
Mais c'est comme quoi, par exemple?
Ils sont là, partout, dans notre campagne.
Téléfacho, la nouvelle comédie de Michel Leclerc. Le 3 avril, dans les salles, les campagnes, les villes et les réseaux sociaux.
Partout en France. Merci Michel Leclerc, c'était une Marine Le Pen avec un petit peu de Patrick Sébastien dedans. Pas faire tourner les serviettes sur France Inter non plus. Merci beaucoup Michel
merci
Leclerc. Merci Michel Leclerc, je rappelle que le film La lutte des classes sort en salle mercredi, vous avez écrit avec Baya Kasmi, et on y retrouve Édouard Baird, Leïla Bekti, Ramzi Bedia, Tom Lévy, Baya Kasmi elle-même, Ey Adiara, Laurent Capelluto et Claudia Tagbo en directrice d'école. Merci les amis, merci à tous, on se retrouve demain avec José Garcia et on vous laisse le mot de la fin, Michel Leclerc.
Dans le monde du cornichon, ils ont inventé ce truc là où quand on soulève, les cornichons sortent.
Oui, oui Michel, vous êtes plus à l'aise sur tout ce qui est cornichon que oui, pour le, la société en général. D'accord.
Ha 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 ha!